Madive.
Ok, il n'y a personne, ça fait plaisir.
Si, mais le micro n'était pas en face de moi.
On l'avait jamais fait.
Le terrain était lourd. Il n'y a pas que le terrain.
Donc, c'est le retour de Jean-Hugues.
Et oui, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un éditeur rennais, un petit nouveau, au doux nom d'Argile.
Ah, mais super. En plus, on les recevra à notre salon.
Absolument.
Le 27-28 novembre prochain au Grenier Saint-Jean.
Tout à fait.
Julien aussi de retour dans cette émission.
Eh oui, contraint et forcé, mais bon, que veux-tu ?
L'un ne va pas sans l'autre.
Quoi neuf, c'est ta troisième émission sur Radio G là en ce moment, non ?
Eh oui, c'est ma troisième émission sur Radio G. Il y a une émission qui s'appelle Sous les jupes des films, qui passe deux fois par semaine, les matins, les lundis et mercredis, qui dure à peu près 10 minutes et dans lesquelles on parle de films de genre. C'est de films de genre qu'on peut avoir en DVD ou Blu-ray, parce que c'est des films actuels. Mmh. Et puis, en alternance avec Imaginaire, il y a Calibre 58. On fait des interviews, on parle de films, tout ça autour de la littérature policière. C'est un peu plus intelligent qu'ici, mais c'est pas mal quand même.
Toujours avec la même équipe d'animateurs.
Ouais, oui, Linda, Toops, Luc qui bouffe
qui est aussi entre les pages le mercredi après-midi. Ouais.
C'est ça. Et cette année, il y a deux petites choses qui sont assez amusantes. Un, on commence un quiz musical. C'est une programmation. C'est une demande de Brissac. Donc, Toops est au saxo, il réinterprète des thèmes de films.
En direct, dans le studio.
Non, on enregistre, parce que là, le saxo sur le micro, c'est un peu chaud. Ouais. Et moi, je prépare un texte, en fait, qui présente le film, et de façon à ce qu'on puisse, on puisse répondre progressivement, d'essayer de trouver. Tu vois, un peu comme Manoukian au piano, quand il fait ses trucs, vous ne trouverez jamais.
Non, on ne sait pas. Et bientôt, en radio crochet.
Je trouverai quand même.
Et on fait gagner des livres aussi. Ça,
ah ouais,
c'est la
donc c'est un blind test quand même en direct dans l'émission. Donc
exactement.
Tous les mardis impairs entre 21h et 22h.
Le prochain, français. Comme c'est une spéciale James Bond, ça va être compliqué.
Eh oui.
Ça, c'est.
Allez, John Barry. Et Karine.
Avec Corps fantôme de Fabienne Leloup.
Ok.
Édition Ramsey.
Qui est aussi quelqu'un qu'on a reçu à Angers, il me semble, dans notre salon. Et puis, Sébastien nous a enregistré sa chronique. On a un autre Sébastien avec nous dans le studio aussi, que je salue, qui est en train de s'installer, qu'on entendra dans l'émission d'après. Ouais.
Parce que
là, on l'entend pas du tout.
Parce que là. J'ai pas mon casque, donc de toute façon, Sébastien m'entend. Je sais pas si je m'entends.
Regarde. Hop, si je fais ça, c'est que je t'entends et on t'entend.
Super.
Faites ça, les auditeurs aussi. Ouais. Bon, émission consacrée aux jeux de rôle, les voix du scénarium.
Tout à fait.
Voilà, ce sera
peut-être qu'il y aura une chronique de toi un jour dedans.
Ouais, peut-être bientôt. Ouais. On a déjà entendu Jean-Hugues dans cette émission. Allez, on s'écoute la chronique de notre chroniqueur livre-jeu Sébastien qui nous parle d'Assassin's Creed cette semaine.
J'ai vu récemment Assassin's Creed, le film d'Ubisoft de 2016, dispo sur la plateforme de streaming Amazon. On y voit la pomme d'Éden, convoitée tant par les assassins que par leurs ennemis séculaires, les Templiers. La pellicule, pomme de discorde pour des aficionados des jeux vidéo, Assassin's Creed, bien plus populaire, n'a effectivement rien de folichon. Et on n'y bide pas grand-chose. Reprenons l'animus, les amis, pour voguer sur le 101.5 à la rencontre d'autres assassins. Car autrement convaincant, La route de la soie, par Mathieu Rivero, propose sous la forme d'un roman interactif de se glisser dans la peau d'un assassin, Wazel, au 9e siècle après Jésus-Christ, époque médiévale optée, séduisante au demeurant. Le livre est sorti en septembre chez Hachette et Rose. Il comporte 293 sections, dont 95 paragraphes annexes, participant à la mécanique de jeu 100D que je juge bien huilée. Tout en démarrant l'histoire, les règles, suivant ce qui nous arrive, nous sont exposées pas à pas dans une police de couleur rouge. On dirait un tuto, tient donc, de jeux vidéo des plus intuitifs. Différents tests d'habileté, d'attaque, etc. posés à notre personnage se règlent en s'arrêtant au hasard d'une des pages. Un pair ou paire qu'on tourne, frappé d'un symbole dans le coin bas. Les symboles, qui s'élèvent au nombre de 5, œil, aigle, épée, hache, serpent, représentent des curseurs décroissants de réussite. D'autre part, vous avez un système bien pensé de sauvegarde pour ne pas avoir à reprendre tout depuis le début. Il s'agit des synchronisations, en quelque sorte des chapitres, 5 en tout. Le lecteur vivra comme un challenge de traverser chacune des synchronisations sans échouer, donnant lieu à la récompense de conserver des compétences et objets acquis tout du long. Et à l'image de points d'expérience, gagné au fil de notre périple, menant de Chinon à Antioche, puis sur la célèbre route de la soie, propre à faire voyager l'imaginaire, les points d'endurance et de dégâts de furtivité, attaque éclair, de Wazel montent. On croira une campagne solo de RPG très simplifiée. La feuille de personnage, tenez-vous bien, tenant sur un marque-page et imprimable en plus grand sur le site Hachette et Rose. Autre élément qui renforce l'aspect ludique de l'aventure, ce sont les personnages d'assassins, tous attachants, qui vont nous épauler au fur et à mesure. Quel dommage qu'aucune illustration intérieure ne vienne les représenter en action. Les combats, très légèrement scénarisés, nous permettent de lutter à plusieurs contre très vite une milice corrompue, suspectée de lien avec l'ordre des anciens, qui trame des choses suspectes autour de la route de la soie, enjeu civilisationnel. Des clins d'œil sont naturellement faits aux jeux vidéo de la licence Assassin's Creed, avec par exemple Hitam le Syrien, apprenti assassin, qu'on retrouve dans le jeu Assassin's Creed Valhalla. Beaucoup d'heures de lecture vous attendent, un erratum de la route de la soie avec quelques erreurs de renvoi corrigées est trouvable sur le site ami livrejeu.fr. Un autre soir, une autre époque sur Radio G, nous aborderons d'Assassin's Creed. Et ce, avec un nouveau roman dessus sorti à la rentrée d'Alain Tépuis-Ségur, Les Enfants d'Highland. D'ici là, je vous dis bye bye et à très vite. Pour accompagner la lecture des 14 nouvelles de l'anthologie Orient Extrême, publiée par Imaginaire en juin 2021, je vous conseille par exemple l'écoute de la bande originale du long métrage Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, dernier Marvel en date. C'est un vieux personnage, Shang, du début des années 70, quand Marvel s'est essayé au Kung-Fu. Moins connu en France comme personnage qu'un autre pratiquant de ces arts martiaux, Iron Fist, qui a eu sa série Netflix. Et le héros, Shang, a été formé par son père pour devenir un assassin. De là être jalousé par les héros assassins d'Assassin's Creed, il faudrait pour ce faire un combat légendaire entre ces personnages, à la mesure d'un alien versus Predator. Maintenant, sur le 101.5, canal de toutes les musiques, les amis, je vous laisse apprécier quelques thèmes de la BO bellement rythmée par des tambours d'Asie, auxquels j'accroche particulièrement bien. Brother and Sister, enchaîné de Who You Are. À bientôt pour d'autres découvertes sur Radio G.
Joel P. West, donc, est compositeur de la BO de Shang-Chi, le dernier Marvel. Sébastien parlait d'Alain Puységur dans sa chronique, et on peut vous annoncer qu'il sera au prochain Salon Imaginaire, les 27-28 novembre, au Grenier Saint-Jean. Allez, on passe à la chronique de Karine.
Ouais.
Alors, je vais donc vous présenter Corps fantôme de Fabienne Leloup, des éditions Ramsay. Dans ce roman, à la limite de la littérature générale et du fantastique, le paranormal est très présent. L'univers du livre, une maison de retraite, est original et permet de sensibiliser les lecteurs à la vieillesse et à l'isolement des personnes âgées. On va suivre Yara, le personnage principal, qui est une jeune femme qui va rapidement changer de travail. En effet, ne supportant plus son travail aux urgences, elle va quitter cet emploi pour un poste en maison de retraite. Chose importante, elle a un don de communication avec des âmes errantes. On va donc voir comment va évoluer son don au travers de son travail dans cette maison de retraite où les conditions de vie ne sont pas des plus correctes. Des événements vont surprendre la petite vie au sein de cette maison de retraite, notamment l'arrivée d'Hermine, une vieille femme originale qui a consacré sa vie aux âmes errantes. Cette dernière va contribuer à un tournant dans cette maison de retraite et dans la vie de Yara. En effet, Hermine l'a choisie pour lui succéder et va l'aiguiller sur ce chemin de communication avec l'inexpliqué. En parallèle, le frère de Yara, Rachid, va choisir un extrême radical, celui des terroristes. Nous le suivons donc à travers ce choix. L'autrice a une plume prenante, alternant entre la réalité vis-à-vis du lieu et du contexte de l'histoire et le paranormal vis-à-vis du don de communication avec des âmes errantes.
Les âmes errantes?
C'est des sortes de fantômes.
Ah bon, d'accord. Mais c'est un truc connu, non? Je sais pas.
Je crois que c'était natif américain.
C'est en deux mots, âme errante.
Ah, les âmes errantes. Ah, d'accord.
Je me permets juste.
Non, mais voilà. Ouais, ok. Merci. Merci, Julien. Bah oui, attends, les âmes errantes.
Il y a une grosse âme errante derrière.
D'accord. Ouais, peut-être, mais je la vois pas, donc tout va bien.
Bon,
le rythme de ce roman est rapide à travers des chapitres courts. Les personnages sont ancrés dans la réalité que l'on connaît, ce qui nous pousse à réflexion. La thématique du terrorisme n'étant pas évidente à développer du fait de la dureté de certains événements, elle est bien travaillée dans ce récit. Donc si vous aimez le paranormal, que vous avez un intérêt pour découvrir un univers atypique, ce livre fait un lien intéressant entre actualité et inexpliqué. Fabienne Leloup n'est pas seulement autrice, elle est également professeure de français. L'inconscient l'a toujours inspirée, c'est pourquoi elle nous plonge dans des univers étranges mais intrigants. Et malgré une première de couverture très sobre, dont nous n'avons pas l'habitude dans l'univers du fantastique de la science-fiction, cela peut être une porte d'entrée à cet univers. Je vous invite donc à explorer ces livres qui nous emportent facilement au cœur de divers univers. Et je vous propose maintenant d'écouter la chanson « The Hinkle Flies Alone » du groupe Arch Enemy sur Radio G.
petit passage calme quand même. Ah. Et c'est une demoiselle hein, qui chante dans Arc Enemy.
Oui. Mmh.
Ça s'entend pas trop. Mais ouais.
Une jolie soprane.
Elles ont le droit de grôler aussi, comme les hommes, tout à fait. Et elle le fait très bien.
Ah ben... Mais ce morceau-là, c'était Angela Gossow ou c'était sa successrice?
Dans le clip, elle a les cheveux bleus, c'est tout ce que je peux vous dire.
Ouais, c'est pas Angela du coup.
Ça change pas la voix.
Je sais pas.
C'est pas la même nana.
Allez, on passe à la chronique de Julien, t'as une petite intro là. You're cute, but not cute enough.
Fantastique année polar.
Should you escape us, Dracula? We know how to save Miss Mina's soul, if not her life.
If she dies by day, but I shall see that she dies by night. And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone, excavated a mile around. I will find your earth box and drive that stake through your heart. Come here.
Eh oui, vous avez peut-être connu un extrait du film Dracula de Todd Browning avec l'acteur d'origine hongroise
Bela Lugosi.
Bela Lugosi, eh oui. Et si vous avez l'oreille anglo-saxonne et musicale, vous aurez en outre repéré que Bela Lugosi, ben, il roule bien les airs. Et c'est sûrement pour cette raison que Corinne Chamdi les doubles dans l'excellente bande dessinée qu'il consacre à celui qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma fantastique et d'horreur. Alors, des lettres de noblesse pour un conte, c'est normal. Cette bande dessinée, j'ai déjà fait rire Jean-Hugues après cette première chronique, je suis assez fier, c'est mon objectif à chaque chronique. Cette bande dessinée qui est parue à la boîte à bulles, dont on ne vantera jamais assez l'excellence, est un biopic partial avec un parti pris évidemment intéressant par un auteur éminemment cinéphile. C'est lui déjà qui avait réalisé L'homme de la quatrième dimension, une histoire passionnante, celle de Rod Sterling. Ici, ben, il s'attaque à un mythe, et quel mythe ? Dans l'histoire fulgurante et foisonnante du cinéma, Bela Lugosi est à la fois un acteur heureux et un artiste maudit. Alors, Corinne Chamdi a préféré désynchroniser son histoire. Il plante son décor dans un hôpital pour acteurs de Los Angeles et on découvre un Bela Lugosi moribond qui regrette ses belles années et qui est victime d'addiction et de vision. Il s'approprie avec perfection le visage si reconnaissable avec ses arrondis lisses. Le dessinateur privilégie pour ses pages contemporaines un aplat monochrome quelque part entre le bistre et le sépia. Et à partir de cette chambre, il multiplie les flashbacks en niveau de gris et on assiste à la gloire de Bela Lugosi. Alors, Corinne Chamdi s'attarde sur ses années hongroises, sur son engagement artistique et politique, sur ses frasques sentimentales et son art de bien vivre. Plus tard, Bela Lugosi est obligé de fuir, de divorcer une première fois, ça des divorces il va connaître, de vivoter à Vienne et de partir pour les États-Unis. Il est sûr de sa destinée, mais le dessinateur trace en creux un profil heureux dans le sens où Bela Lugosi sait saisir sa chance. Enfin, ça c'est au début. Ces tergiversations autour de Frankenstein feront naître une autre étoile rivale, Boris Karloff. Parallèlement, on assiste à l'histoire cinématographique, les studios omnipotents, la disparition du muet, l'implacabilité d'un métier. La force de Bela Lugosi, c'est qu'il est sûr de lui. Il faut le dire à nos auditeurs, l'homme ne parle pas très bien anglais. Il est à l'aise en hongrois, parce qu'il est hongrois, et en allemand, parce que c'est à côté, un peu en français, parce que bon, il l'a traversé, et peu en anglais. Alors, dans cette période charnière qu'est le cinéma qui se transforme de muet en parlant, il apprend ses textes par cœur avec cette diction si particulière qui colle à la peau de Dracula, mais l'engonce quelque peu dans un costume. Là-dessus, il est dispendieux, mauvais homme d'affaires, encore plus mauvais mari. En creux, Corinne Chamdi dresse le portrait d'un homme égoïste, refermé, renfermé sur lui-même, sur sa légende et sur ce qu'il ne cessera de penser qu'il deviendra. Amoureux du regard du public, il n'aura de cesse de quémander de l'admiration. Dans la jungle hollywoodienne, malgré ses rôles de prédateur, il est plus à classer du côté des proies. La bande dessinée de Coren Chadmi est brillante. Elle occulte quelques pans comme tout son travail cinématographique d'avant Dracula et d'avant Dracula surtout en Autriche. Elle s'attarde sur la rivalité à plusieurs niveaux d'avec Boris Karloff. Elle est fine et surtout, elle donne envie de revoir ses films, même les plus mauvais, et de redécouvrir des réalisateurs comme Ted Browning et Ed Wood. L'aura de Bela Lugosi est toujours resplendissante. À noter qu'Elephant Film a sorti l'année dernière deux films avec Bela Lugosi et Boris Karloff, Vendredi 13 et Le Corbeau. On écoute d'ailleurs Bela Lugosi dans Le Corbeau, un film inspiré d'Edgar Allan Poe, dans lequel il joue les docteurs apprentis sorciers et tombe amoureux d'une jeune femme. Et dans ce film, il croise le personnage d'un homme incompris, moche et frustre, dont il fait son esclave, un certain Boris Karloff. Alors, n'oubliez pas, Lugosi, Grandeur et décadence de l'immortel Dracula, c'est une bande dessinée de 150 pages à la boîte à bulles, et c'est de Coren Chadmi. Et maintenant, Le Corbeau. Dans la foulée, on écoute Bon Collector, Bela Lugosi's Dead, une reprise de Bowers.
And pain, how much pain a man can endure.
Well, I do agree with him that Dr. Valen is a little mad.
I tell you, it's dangerous to be under this man's roof.
I can't use my hand to do it. Your hand is used to torture. Your hand must do it. My brain? Your hand.
You monster. You like to torture.
I like to torture.
It's as if we were all in a tomb.
There is now no way of getting up.
You will live in this place forever and ever.
It'll be
bah ça bip. Hein.
Ça bip beaucoup. Hein, quand même.
Les Bone Collectors, donc un groupe russe avec leur chanteuse Zombirella.
Oh.
Ouais. Et qui sont aussi connus sous le nom de Messer Chups, dans une version plus surf musique.
Tout ça pour les auditeurs qui sont encore là après.
Bah, génial ce morceau.
Bah, bien sûr.
La reprise donc de Bela Lugosi's Dead, on n'a pas remis l'original de Bauhaus, déjà parce qu'il doit faire 9 minutes, je crois, sa single, et puis on l'avait déjà passé.
Mais bien sûr.
Voilà, tu l'avais déjà choisi.
Ouais.
Je sais pas, on avait parlé des Prédateurs de Tony Scott, c'est ça?
Ouais, avec Catherine Deneuve et David Bowie. Bah, pourquoi pas, parce que c'était sympa.
Ah ouais, d'accord.
C'est ce qu'il faut des raisons. Bêtises,
tout ça. Allez, j'envoie ton générique.
Ah.
Félicitations, Edgy. C'est un calamar.
Ouais.
Chers éditeurs, bonsoir. Inutile de vous dire comme je suis heureux de vous retrouver ce soir. Et d'ailleurs, l'un de mes condisciples chroniqueurs a hâte aussi de vous retrouver. Il s'agit bien sûr de Tyrannosaurus Imperium qui piaffe d'impatience. Et je vous laisse imaginer la scène de vous retrouver afin de vider sa bile urk, sur film, série, roman, avec tout le tact dont il a le secret. Bon, parlons chiffon. J'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir la maison d'édition qui a vu le jour ces derniers mois et qui bouleverse avec élégance l'ordre établi dans le monde de l'imaginaire. Il s'agit d'Argile. A-R-G-Y-2-L. Nouvelle maison d'édition rennaise, tenue par Simon Pinel et Xavier Dolo, que vous connaissez aussi sous le pseudonyme de Thomas Géa. Rappelons pour les Martiens qui ne coûtent pas notre émission que Thomas Géa faisait partie des invités du premier festival imaginaire il y a très longtemps. Et que depuis, dès qu'il le pouvait, il nous honorait de sa présence. Alors, les mauvaises langues vont dire que je fais du copinage. Alors, je tiens à dire que nous avons des relations très formelles, Xavier et moi. Bon, sauf peut-être lorsqu'on s'invite pour nos mariages ou nos anniversaires respectifs. Reprenons. Alors, Xavier est connu pour avoir monté avec son frère une maison d'édition au doux nom d'Ad Astra, où il l'avait quand même découvert. Monsieur Laurent Well, Madame Ophélie Bruno, Madame Jana de Batz, mais il ne faut pas le dire. Et avait remis au devant de la scène l'excellent Christian Léourier, et oui, rien que ça. Suite à et durant cette belle aventure, Xavier travaillait pour la librairie Critique, devenue, elle aussi, maison d'édition, dans la compagnie de Simon Pinel. Les deux décident de fonder les éditions Argile en compagnie de deux autres lascars, Xavier Collette, qui est responsable de la partie graphique, et Frédéric Hugo, pour la partie livre numérique. Alors, la politique éditoriale est assez tentante puisque l'on parle de relations privilégiées avec les auteurs, qui se traduit entre autres par des droits d'auteur d'un montant rarement vu dans le monde de l'édition. Il n'y a pas de secret, c'est du 12%. Il faut savoir que quand on arrive à 7-8, habituellement, c'est pas mal. Quant à la note d'intention de la maison d'édition, je vous l'ai lis. Je cite, Argile publie des histoires fortes et prenantes avec un tramage social fort, et ce, qu'elles appartiennent au roman historique, au roman policier ou surtout à l'imaginaire, science-fiction, fantastique, fantasy. À plusieurs niveaux, Argile cherche à montrer que l'imaginaire, au travers de la fiction, est un outil essentiel à notre réalité, à notre compréhension du monde. L'imaginaire est un biais, un pas de côté, une façon de réfléchir le monde de demain. Fin de citation. Ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'on disait de l'imaginaire au tout début. Alors tout ça c'est bien beau, mais les bouquins donnent quoi? Alors il y en a 6 sortis ou presque et j'en ai lu 3. Bon, en même temps, dans ceux que j'ai pas lus, il y a La monture de Carole M. Schwiller qui vient de sortir et qui sera le prochain bouquin sur ma palle, encensé par la critique anglo-saxonne. Cette dame, aujourd'hui décédée, a eu pour ce roman le prix Philip K. Dick en 2003 et le pitch fait extrêmement vie. 2 points, je cite, « Charley est un humain, mais Charley est surtout un animal apprivoisé. Sur une terre devenue leur monde d'accueil, les houtes des extraterrestres herbivores ont transformé les humains en montures. » Charlotte, jeune garçon sélectionné pour ses mensurations et ses capacités de reproduction, est destiné à devenir l'une d'entre elles. C'est pas la peine de rougir, Karine. Et ça a été traduit par Patrick Dechêne. Le deuxième que je n'ai pas lu est Sous le vent de la liberté de Christian Léourier. Tiens, leur voilà. Mais il faut dire qu'il sort en novembre. Le troisième est Le crépuscule de Briareus de Richard Cooper, que j'ai lu chez Présence du Futur en 1986 ou 87, et je m'en souviens car c'est la première chronique de ma vie parue dans le magazine Infojeux, célèbre magazine de jeux de rôle, je parle aux dinosaures, hein, qui tirait à 35 000 exemplaires, des chiffres qui font rêver aujourd'hui. Mais je le laisse à Pierre Marais, notre bien-aimé président, qui en a manifesté le désir de manière quasi outrancière. La traduction est celle de l'époque par Claude Seunier, revisitée par Pierre-Paul Duras-Tanty. Rien que ça. Bon, alors j'ai lu quoi du coup ? Alors j'ai lu Traqué de Christophe Nicolas, Traqué avec un K. Oui, attends. Alors, je veux dire que les premières pages du roman, ça a été un choc, car lors d'une manifestation en réaction à la mort d'un zadiste, un jeune homme se retrouve coincé entre Black Bloc et Force de l'Ordre et tente d'être dégagé de la nasse policière par un membre du service d'ordre des manifestants. Et je dois l'avouer, j'ai été membre d'un service d'ordre et j'ai sauvé de la violence policière un certain nombre de manifestants totalement inoffensifs, dans le genre des vieux ou des mamans avec des landaus. Bon, ça, je le fais plus, hein. Je cours plus assez vite. Alors, le thriller est efficace, il sera traité de complotiste par les naïfs, parmi lesquels nous vivons, parce que nous sommes effectivement traqués de manière numérique tous les jours de notre vie. Les téléphones, les cartes de crédit, les réseaux sociaux, les box internet, les télépéages, nos télés, nos réfrigérateurs et radiateurs connectés. Notre vie est devenue transparente et ceux qui nous gouvernent sur une simple injonction ont accès à toute notre vie et il n'y a pas eu besoin d'un pass sanitaire pour le faire. On peut peut-être reprocher une pointe de manichéisme dans ce roman, mais pourquoi pas ? Le journaliste, lanceur d'alerte assassiné, la policière acharnée à la poursuite de la justice, la fille du journaliste à la charge de la vérité, tous les ingrédients sont là pour un cocktail réussi. Ensuite, ah bah tiens, qui voilà, monsieur Lionel Davoust de soi-même qui nous donne une leçon d'écriture dans Comment écrire de la fiction. Lui aussi, il était au premier festival imaginaire et il est revenu à de nombreuses reprises, et tant mieux. Alors ce truc-là, j'y suis allé un peu à reculons et j'ai eu tort. Pourtant, j'écris, hein. Bon, pas beaucoup et pas très bien, mais regarde cette chronique, c'est génial, hein. Bon, ok, merci les gars. Le cours est magistral, mais émaillé de petites réflexions et d'anecdotes qui rendent sa lecture très agréable, et ce n'était pas simple. De plus, la pertinence de la réflexion de fond m'a paru de très bonne alloi. Alors, futur prix Hugo ou même Goncourt, n'hésitez en aucun cas. Et puis, enfin, Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger. Bon alors, le petit Camille, on le connaît bien, puisqu'il nous a fait le plaisir d'accepter nos invitations imaginaires. Je l'ai découvert avec Beltrame le Baladin, édité actuellement chez Libretto, je te ferai dire. Et ça avait été une très bonne surprise. Et paf, il nous refait un roman de fantasy. Alors je sais pas vous, mais entre Plateau, Serruti et Le Boulanger, la fantasy francophone a pris un foutu coup de jeune. Je me suis donc plongé avec envie dans Le chien du forgeron, et l'animal, non pas le chien, Camille, suivez un peu, a encore frappé fort. Au début, ça a une tronche de Gemmell, mais l'effet part très vite. Un narrateur, un vieil alcoolique dans une taverne, a de quoi devenir une légende à lui seul. Il est témoin à plusieurs égards de la vie du... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. De Cuculain.
Ah oui, c'est un dieu irlandais, non ?
C-U-C-H-U-L-A-I-N-N, héros celte mythique. Ah ouais, et il nous réinterprète la légende avec la touche de vérité qu'on évite habituellement de raconter. Dans le genre, mais qui dirait que Conan est une grosse brute obtuse ? Ça, surtout... si Conan est dans la pièce. L'image virile du héros des temps passés habilement massacré par l'auteur. Ah oui, dans les combats, ce géant à poil, c'est incomparable de brutalité, de violence, et ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande. Mais qu'en est-il quand le combat est terminé ? Une brute reste une brute, surtout quand il souhaite ne pas ternir son image de brute. C'est très malin, très bien écrit, ciselé. Vous l'avez compris, j'aime Argile et ses protagonistes, et je vais suivre avec attention leur parution, dont je vous tiendrai informé ici et ailleurs.
Bah alors, hein, on s'endort, je sais pas, le morceau était coupé avant la fin.
Oh.
Un extrait de la compile Scared for Life, une espèce de projet transmédia, on va dire, anglais, que j'ai découvert sur Bandcamp, en fait, par la musique. Il y a deux compilations qui regroupent, on va dire, des artistes de la scène, jeune scène électro-anglaise, qui se sont prêtés à l'exercice de créer un générique, en fait. Générique pour des programmes télé qui n'existent pas. Oh. Parce que Scared for Life, à la base, donc, c'est deux énormes bouquins. Là, y en a un qui fait 750 pages et l'autre 550, écrit par deux Anglais, Stephen Brotherstone et Dave Lawrence, qui ont décidé de parler, en fait, de tout ce qui les avait traumatisés à la télé anglaise dans leur jeunesse. Donc, il y a un tome sur les années 70, un sur les années 80. Donc, ça vous donne un petit peu la... Ça situe un petit peu l'âge des messieurs aussi.
Des gamins.
Et alors, pourquoi j'ai acheté ça? Je me suis dit, parce qu'en fait, là, vraiment, ça parle quand même de beaucoup de choses qui sont passées à la BBC. Alors, la BBC, quand même, c'est peut-être différent, je ne sais pas, service public en France et tout, je ne me rappelle pas trop. Est-ce qu'on avait vraiment... cette volonté d'éduquer les enfants un peu coûte que coûte sans trop les préserver. Bon, on en discutera tout de suite entre nous sur ce qui nous a traumatisé nous à la télé française. Il y a une grosse partie de ces deux bouquins qui sont consacrés au Public Information Program, ce qui est un truc qu'on n'a jamais trop eu. On entend peut-être à la radio en ce moment maintenant, genre allez vous faire vacciner, des choses comme ça. Mais là, il y a quand même un... ça doit faire 150 pages qui sont consacrées à ça, notamment sur l'arrivée du sida, l'alcool, les drogues, la rage aussi, hein, genre n'allez pas, les enfants n'allaient pas caresser ce chien dans la rue, etc. Et donc fait de façon assez assez frontale, quoi. Donc on aurait apparemment traumatisé pas mal de gamins en Angleterre. Ça parle aussi donc. Alors moi pourquoi j'ai acheté ça, en fait, je me suis dit, parce que les trucs sont passés à la BBC il y a 30 ans.
Ouais, parce que t'es taré, en fait.
Non, ouais, alors je suis taré. Et aussi, par exemple, j'ai vu que ça parlait des tripodes. Et en fait, les tripodes, je l'ai vu quand j'étais gamin à la télé.
Oui.
Cette série tirée d'une série de romans de science-fiction anglais. Moi, j'ai dû voir ça dans Croque Vacances, je crois. Donc, ça avait été
entré dans la danse, toi aussi.
Ouais, ça avait été vraiment fait pour les jeunes, en fait, cette série où à l'âge de 16 ans, on sort du village et on va voir les tripodes qui nous mettent une espèce de puce dans le cerveau et tout. Et après, on devient un esclave des tripodes. Je me rappelle qu'après avoir regardé les épisodes des tripodes, j'allais courir dans le champ chez mes grands-parents et j'avais des bases anti-tripodes, en fait. Je leur tirais dessus de loin parce que c'est quand même ils ressemblent vraiment aux extraterrestres dans la guerre des mondes, en fait. Mmh. Bon, bref, donc je me suis dit quand même, il y a quand même des trucs.
Et t'as enlevé la puce depuis ou bien?
Je me suis dit, il y a des choses qui vont me parler dedans. Effectivement, il y a aussi la série Hammer House of Horror qui passe à la télé, qui ressemble un peu à un sitcom. Hein, c'est vraiment très tea time et tout, dans des salons au papier peint complètement démodé.
Il y a pas une anthologie qui est ressortie d'ailleurs là-dessus il y a
peut-être, ouais. C'est un petit peu démodé aussi. Il y a eu des séries post-apo aussi dans les années 80. Enfin bref, plein de belles choses et c'est vraiment une énorme encyclopédie. En fait, ils sont deux à vacciner le truc, mais il y a plein d'articles de plein de leurs potes, ça épluche vraiment toute la télé. Et donc, avec certains, j'ai pioché un peu au hasard. Je suis tombé, par exemple, il y a aussi un truc sur... Alors, il n'y a pas que les choses qui ont fait peur, il y a aussi qu'est-ce qui a choqué les enfants à la télé à cette époque-là. Par exemple, le passage de Napalm Death dans l'émission... Donc, Napalm Death, c'est le même groupe de grindcore anglais, dans l'émission What's That Noise, qui était une émission aussi pédagogique de la BBC, qui parlait des musiques aux enfants, et donc... Le groupe de grindcore joue comme s'ils étaient devant leurs fans. Donc là, pendant une minute, regardez le truc sur YouTube. C'est sur la page YouTube de Napalm Death, hein, c'est quand même assez surréaliste. Donc plein aussi de moments de télé surréalistes. Traité aussi avec beaucoup d'humour. Il y a aussi, par exemple, il parle de l'épisode d'Halloween de Punky Brewster. Je ne sais pas si vous avez regardé Punky Brewster. Là, la chronique de l'épisode d'Halloween de Punky Brewster, c'est en fait une session de brainstorming sur qu'est-ce qu'on va raconter pour notre épisode d'Halloween. Et en fait, le diable rentre dans le studio de production où les mecs sont en train de brainstormer et leur file plein d'idées. Ah ouais, c'est super et tout. Enfin, c'est traité de façon humoristique et donc il paraît que cet épisode est vraiment horrible aussi. Bon, là, c'est un truc américain. Donc là, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a... Scared for Life, vous, dans les programmes télé que vous avez vus enfant, est-ce qu'il y a des choses dont vous vous rappelez?
Ouais, moi je me rappelle la vacuité des programmes, ça m'a souvent été... je pense qu'en fait, si on fait le même, on pourrait faire le même bouquin.
Voilà, j'attends qu'on fasse en France.
mars, ouais. Et il devrait faire 30 pages, donc on peut s'y mettre, hein, parce que la pro.
Quelle mauvaise langue, mais c'est
pas. Non, non, pas quelle mauvaise langue, mais c'est vrai que avant le Club Dorothée, il n'y a pas grand chose. Hein,
alors, la Belphégor. Il y avait Belphégor, mon vieux.
Oui, mais nous, on n'a pas connu l'ORTF.
Ça a traumatisé ma mère, ça.
Nous, on n'a pas connu l'ORTF.
Ah, bah toi, qu'est-ce que tu veux.
Mais Belphégor, ça passait à quelle heure?
T'as pas eu peur de Candy? Ça passait en début de soirée, c'est un épisode.
T'étais pas censé être couché, justement, parce que là. Là, des fois, il triche un petit peu dans Scared for Life, par exemple. Il chronique Salem's Lot quand il est passé à la télé anglaise, donc le film tiré du célèbre roman de Stephen King. Mais bon, forcément, c'était un truc fait pour faire peur et tout. Donc là, bon, c'est un petit peu de la triche. Club Dorothée, oui, bah, quand même, moi, Ken le survivant, par exemple, le premier épisode, j'ai vu en direct, et là, on m'a dit, attention, tu vas exploser dans 7 secondes. Et là, il y avait un décompteur sur l'écran, 7, 6, 5, 4. Alors, le gars explosait plutôt en nombre chinoise, il me semble, si je me rappelle bien. Ça avait été un tout petit peu censuré, mais je pense que dans la semaine qui a suivi, Dorothée a reçu autant de courriers qu'elle n'en avait reçu depuis le tout début de sa carrière, quoi. Et donc Téléchat, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai fait un petit sondage, cette émission quand même assez glauque quoi.
Effrayant, pour... avec un micro qui a des oreilles et des yeux.
Ouais, c'est vrai que c'était assez flippant. D'ailleurs, il y a des marionnettes là en couverture des livres qui ressemblent un peu à ce genre de truc. Ouais, fait peut-être pour amuser les enfants et en fait non, c'est super flippant.
Bah regarde les Télétubbies, c'est vrai que ça fait
flippant. C'est flippant les Télétubbies.
Alors les Télétubbies ont eu plutôt le succès inverse. Il paraît que c'était une émission pour les gens qui sortaient de boîte de nuit, qui s'étaient énormément drogués pendant la nuit, et ça permettait de redescendre tout doucement le dimanche.
Moi j'étais en Écosse à l'époque, je voyais ça sur la télé, c'était assez hallucinant les Télétubbies. On avait l'impression d'être sous acide.
C'est ça.
C'était.
C'est pour ça que la descente était douce pour les gens qui étaient vraiment
sous acide. En Écosse, t'avais ça et le snooker, mais bon, le snooker était moins perturbant que les Télétubbies. Moi j'ai jamais Téléchat, ça m'a jamais fait flipper. J'ai toujours trouvé ça très très cool. Enfin, il y avait un côté jazzy à la fin en plus, très calme. Très
c'est le côté polar qui t'a plu.
Et franchement, Légumane, il m'a jamais empêché de dormir. Quoi.
Les gluons étaient un peu flippants quand même, ils avaient une drôle de voix,
mais tout était bizarre. C'est un plâtre, il rangeait des trucs dans son plâtre. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais pas fait de bras. Non, moi j'ai un bras depuis mon plâtre.
Karine, toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait peur à la télé?
Bah, en général, j'évitais les choses qui me faisaient peur.
Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc aussi. Joe l'Indien, dans Tom Sawyer. Je me rappelle que je regardais chez un copain après l'école. Et en fait, j'étais me caché derrière le fauteuil quand Joe l'Indien arrivait. On savait, d'ailleurs, je crois qu'il avait sa musique, hein, de toute façon, qu'il l'annonçait et tout. Ça vous dit quelque chose, non?
Oui, alors moi, Joe l'Indien, oui, je vois. Alors, je sais pas si j'avais peur.
Il est présenté un petit peu comme le méchant. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, c'est pas vraiment lui qui a magouillé et tout à la fin. Mais encore faut-il aller jusqu'à tous les épisodes suivants et...
Non, il y avait surtout la gouvernante là, qui surveillait l'heure quand elle faisait brosser les dents à Tom Sawyer, ça devait durer 3 minutes. Moi, ça me faisait flipper.
Ah, quand même. Bon, voilà, pour Scared for Life. Donc, deux livres alors qu'on trouve en fait sur leur page Lulu. Donc, vous cherchez Scared for Life. Et donc, c'est imprimé directement par lulu.com. Ça coûte un peu plus d'une vingtaine d'euros par tome. Et, alors, bon, par contre, c'est complètement in English, mais là il y a vraiment des heures et des heures de, oui, d'amusement. Moi,
c'est
je trouve
dense, hein. C'est corsé
et c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment aussi, je trouve, une chronique de la société anglaise dans les années 70-80, ce que la télé ne faisait jamais que, enfin, on fait que parler de la société.
Bien sûr.
Et notamment des séries faites pour les enfants et tout sur l'éducation, tout ça. Qu'est-ce qu'on attendait des bons petits anglais? Enfin, je trouve c'est vraiment.
Ouais. On a déjà vendu deux exemplaires.
Hein. Voilà, sociologiquement très intéressant ce truc. Et puis ça me donne envie de justement d'aller chercher plein de séries.
Il y aura les années 90 ?
Alors en ce moment, je crois qu'ils sont en train de travailler plutôt sur les nasty movies, comment c'est arrivé dans les années 80, enfin vraiment la grosse mode des films d'horreur dans les vidéoclubs. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est une page jeu de société, enfin plusieurs pages, un chapitre jeu de société aussi, où il y a plein de trucs. Enfin moi, ça me donne trop envie d'y jouer quand je vois ça.
Il parle du jeu de société et des Dents de la Mer.
Ah oui, t'as regardé là?
Ouais, j'ai regardé dedans. Et comment tu demandes à des gamins de jouer à bouffer des gens en fait? Tu joues quoi? Les gens qui tuent le requin ou le requin qui bouffe des gens?
Ah ouais, je sais pas, mais en tout cas, la dernière version du jeu d'ailleurs, qu'on trouve toujours là en ce moment, on peut effectivement, on incarne soit l'un soit l'autre. Et ça me fait penser qu'il y a aussi le post-apo. Je me disais comment on peut faire un peu de la fiction, du post-apo pour les enfants, des choses comme ça. Et en fait, j'ai revu récemment sur le site de l'INA une pub pour un jeu de voiture qui s'appelait Le Survivant, où c'est vraiment des bagnoles à la Mad Max et on doit complètement dégommer les autres et tout. Et donc, il y a une pub où on voit des gamins. Ouais, super. Puis derrière, vous voyez une route déserte avec un cactus et puis un vautour et tout. Vraiment l'ambiance.
Ça a pas surfé sur le film La course à la mort de l'an 2000 avec Carradine?
Non, là c'était vraiment, là c'était vraiment Mad Max la référence.
Okay.
Mais par contre, oui, le film de Carradine aussi avait été adapté en jeu vidéo et je pense que c'était plutôt des enfants qui jouaient à ça.
Ah, c'était très bien, Carmageddon.
On pouvait gagner des points en écrasant des gens, c'est ça, non?
Oui, et si c'était des déambulateurs, tu gagnais plus.
Exactement comme dans le film. Mais bon, qui n'était pas un film pour les enfants. Bon, Sébastien, quelques mots sur ton émission qui arrive là dans quelques minutes.
Eh ben, je voulais contrôler en fait quand tu me bouffes pas mon générique, pour une fois. Non, mais je vous invite à écouter une émission qui va parler de théâtre sur table, hein, de toutes les façons dont on peut parler. Donc, je voulais faire cette émission parce que je trouvais que les actual plays qu'on voit à la télé, eh ben, on les voit pas, on les écoute. Pour la plupart, et je trouvais que ça ressemblait quand même beaucoup au feuilleton radiophonique et j'avais envie de renouer un petit peu avec ça. J'espère que j'ai un petit peu réussi. Et puis la première partie de l'émission parle un petit peu de l'actu et puis des créateurs de jeux de rôle à qui je donne la parole. Et tout à l'heure, vous allez pouvoir entendre Jean-Marie Noël, qui est un des piliers en fait de Casus Belli.
D'accord, très intéressant.
Et ouais.
Dans quelques minutes sur le 101.5. La rubrique agenda, ouais. Julien.
Oui, alors moi je voulais juste parler d'une chose dont vous avez peut-être entendu parler. Hachette, par le biais de son label Hachette et Rose, relance une collection qui s'appelle Le Rayon Imaginaire. Le Rayon Imaginaire, à l'époque, c'était une co-ed avec Gallimard et il y avait eu 124 romans. Et en 2022, il publie 6 romans, dont un en juin d'une jeune autrice révélation de la SF indienne, Lavanya Lakhmanyarian.
Pardon, tu peux répéter, s'il te plaît.
Non, je ne répéterai pas parce que sinon je ne peux pas parler en août de la sortie de La Maison aux Mille Étages signée par Jan Weiss, le père de la SF tchèque. Et ça a été écrit en 1929 et il y aura un inédit de Robert Heinlein. Voilà, donc ça c'est très quelque bien. Chose à suivre.
Et dans la rubrique agenda, je voulais signaler que le week-end prochain, c'est les 12 jours en jeu à Angers. Ça se trouvera à la médiathèque Toussaint et notamment il y a la nuit des protos vendredi soir, non, et prototypes de jeux de société, donc si vous voulez essayer de nouveaux jeux. On termine avec les Angevins de Gondawa qui seront en concert samedi prochain au Joker's Pub.
Salut,
à plus dans 2 semaines sur le 101.5. Restez pour les voix du Scénarium tout de suite.